Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus en ce lieu. Donc la semaine dernière, nous avons abordé ce thème sur un salaire juste. Donc je ferai juste la transition entre la partie de la semaine dernière et celle-ci. Nous étions quittés, on va dire, sur nos différentes réactions par rapport à ce texte, au premier degré. Alors, quelle pouvait être notre attitude lorsque nous lisons ce texte pour la première fois? Peut-être de l'indignation, on ne comprend pas, c'est injuste, c'est pas possible. Ou peut-être modérément indigné, peut-être qu'il y a une autre raison que je ne connais pas. Mais le maître est libre de disposer de ses biens, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a. Et puis, notre dernière attitude, c'est la compréhension, je me réjouis de ce que les derniers ont reçu pleinement le salaire. Donc j'ai une attitude compatissante, une attitude de compréhension. Et là, nous allons nous pencher sur le deuxième degré de ce texte, parce qu'en fait, c'est le deuxième degré qui nous intéresse. Donc pour une personne lambda, le salut peut arriver dans sa vie, tôt, moyennement tôt, plus tard, ou bien plus tard. Même un enfant peut se convertir pour suivre Jésus, comme un vieillard peut se convertir pour suivre Jésus. Donc on peut se convertir à la première heure, puisqu'on va quand même faire le lien avec ce texte, puis on peut se convertir plus tard, jusqu'à, je dirais, 11e heure sur 12, presque à la fin, à la limite. Et ça me fait penser quand même, l'image que l'on peut avoir, c'est le malfaiteur de brigand sur la croix. Qui aurait pu statuer, dire qu'il serait sauvé? Parce que là, on donnait plus cher de sa peau, c'était ses dernières... Je vais dire ces dernières heures, mais on était plutôt dans ces dernières minutes de vie étaient comptées. Mais là, il reconnaît son état, il demande pardon à Jésus, et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, est-ce qu'il était trop tard pour lui ou pas? Non, il n'est jamais trop tard tant qu'il y a de la vie. Quand il n'y a plus la vie, il est trop tard. La compassion de Dieu s'étend jusqu'au dernier moment, jusqu'à la 11e heure. Dans la Bible, il nous est dit que Dieu use de patience. Il attend le dernier moment. Il nous attend au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle, il ne se détourne pas. Avant que nous devenions chrétiens, nous étions pécheurs. Nous étions même ennemis de Dieu, nous dit la parole. Tout cet état avant que nous soyons sauvés. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Nous ne méritions que la mort. Mais Dieu nous attendait. Chaque chrétien est tout aussi sauvé parce que son salut dépend de la grâce de Dieu et non de son propre mérite. Une petite histoire. Il y a quelques mois, un homme est mort. Il était devenu chrétien 3 ou 4 semaines avant sa mort. Après sa mort, un pasteur a parlé à un autre chrétien et lui dit... Et là, il lui dit, il ne sera pas au ciel puisqu'il est devenu chrétien si tard dans sa vie. Surprenant, surprenant. Peut-être que certains ou certaines pensent la même chose. À la dernière minute, on ne peut pas. C'est trop tard. Moi, je suis chrétien, disait cet homme, depuis longtemps. J'ai donné mon cœur à Jésus lorsque j'étais enfant. Donc ça fait bien des années. Et ça me fait penser, puisqu'on revient toujours à ce texte, à ces ouvriers qui disent, mais Seigneur, Nous, on a eu chaud. On a transpiré. On a eu soif. On a souffert. On a eu mal. Tout notre corps nous faisait mal. Et celui qui arrive à la fin, il a la même chose. Seigneur, serais-tu injuste? Mais est-ce que, encore une fois, est-ce que nous, nous méritions cette grâce? Non? Qu'elle soit par, quels que soient les efforts, personne ne mérite la grâce de Dieu. Nous, chrétiens, nous avons quelque chose à partager. Notre Dieu est à la recherche, comme nous voyons dans ce texte, perpétuel d'ouvrier pour venir travailler dans son champ. Il veut nous faire passer de la mort à la vie. Et alors notre attitude, elle ne doit pas être à la hauteur ni semblable à ces réactions que certains chrétiens, parce que là on le transpose dans le monde chrétien, certains chrétiens pourraient avoir envers d'autres. Est-ce que lui va toucher le même salaire au royaume de Dieu? Est-ce qu'il va le mériter? Est-ce qu'il aura suffisamment d'expérience pour? Est-ce qu'il aura fait ses preuves? Est-ce que le brigand sur la croix a fait ses preuves? Est-ce que Jésus lui a dit, bon, ok, mais là tu vas descendre de ta croix, et puis tu vas faire ton chemin. Comme ça, je vais voir si vraiment tu as le droit de mériter l'accès au ciel. Est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce que ce brigand pouvait descendre de la croix et aller se faire baptiser? Il ne pouvait pas le faire. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras sauvé. Donc, est-ce que chacun mérite le royaume de Dieu selon ses mérites, justement, selon ses actions? Et là, Jésus, dans ce genre d'exemple, bouscule tous les principes, parce qu'à l'époque, c'était donnant, mérite. Cette justice bousculée fait des jaloux de la part de ceux qui ont travaillé tout le temps, supporté la chaleur. Aujourd'hui encore, ce principe existe. Cette notion de justice n'est pas la justice de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de générosité? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de gratuité? Ou est-ce qu'aujourd'hui je te donne si tu mérites, si tu as suffisamment travaillé? Si tu t'es suffisamment engagé. Cette parabole révèle que le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur cette base. C'est-à-dire que la grâce divine n'est pas distribuée proportionnellement selon le statut. Il n'y a pas de dosage. Sinon, ce denier n'aurait pas été distribué de la même manière. Là, au travers de cette parabole, nous montre que première heure, dernière heure, chacun aura sa rétribution, aura son salaire, aura son accès au ciel. Je ne peux pas prétendre, parce que je suis chrétien depuis un certain nombre d'années, mériter plus que quelqu'un qui se convertirait sur son lit de mort. Peut-être même devrais-je rendre plus de compte que lui, parce que je n'ai pas peut-être forcément eu une vie 100% dans la ligne droite que Dieu attendait de moi. Ça, il faut se poser la question aussi. Ça relativise bien des choses. Le Seigneur exerce libéralement sa bonté envers les hommes en apportant le pardon, la réconciliation, la paix, la joie, la justice, selon lui, selon sa justice. Alors il est vrai que la grâce peut paraître injuste, hein, si on la rapporte purement au premier degré de ce texte. Seigneur, c'est injuste, je mérite mieux. Et quoi, mes frères, mes sœurs, est-ce que là-haut je veux habiter rue de la Paix, avenue Montaigne ou boulevard Barbès? Moi, personnellement, entre guillemets, attention, ne prenez pas mal, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ça la valeur. Puisque je me dis, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Sait très bien où il me mettra. Et que sa volonté soit faite. Parce que c'est lui qui distribue. C'est pas moi qui arrive en me disant, Seigneur, tu as vu quand même ce que j'ai fait. C'est quand même... Ça vaut quand même quelque chose. Mais Jésus dit, non, ça vaut rien. C'est pas que Dieu ne néglige ce que nous faisons, ni ne le voit pas sans valeur. Mais c'est relatif. Parce que Jésus, c'est pas ça qu'il regarde. Pour ça que parfois nous avons du mal à comprendre ce genre de texte. Et les premiers seront les derniers. Je termine sur cette phrase. Ben oui, on l'a lu souvent. Alors ça veut dire quoi, les derniers seront les premiers? Ben voilà, les derniers seront les premiers. Alors attention, il ne faut pas se dire, alors dans ces cas-là, ok, donc ça ne sert à rien que je me convertisse de bonne heure. Je préfère attendre. Puisque la dernière heure, je toucherai la même rétribution que la première heure. Ah, là, c'est ce qu'on appelle jouer la roulette russe. C'est pas ça le message qu'il faut faire passer si vous parlez justement de ce texte à quelqu'un. Parce qu'on pourrait, un non-croyant pourrait avoir cette pensée de dire, mais alors, il n'y a aucun intérêt à me convertir de bonne heure. Oui, mais est-ce que tu sais quand tu vas mourir? T'en sais rien. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des jeunes adultes qui meurent. Il y a des parents qui meurent, des grands-parents qui meurent, des centenaires qui meurent. Qui peut dire, qui peut donner la valeur et la longueur de sa vie? C'est pour ça que cette réflexion, elle ne tient pas la route. Si quelqu'un vous dit ça, est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Est-ce que tu savais quand est-ce que tu allais naître? T'en savais rien. La vie ne t'appartient pas. Tu peux sortir et te faire écraser. Moi, ma belle-maman, elle a fait un AVC, elle est en train de chanter à l'église. Elle chantait à l'église, en réunion, et puis d'un seul coup, elle ne s'est pas sentie bien, et quelques heures après, elle était décédée. Qui lui aurait dit, ma sœur, ce soir, en réunion, à l'église, le Seigneur va te reprendre? Personne. Elle se serait peut-être dit, assez fort, fort peu probable quand même. Je vais pour louer mon Seigneur avec mes frères et sœurs et il me reprend. Mais on ne sait pas. Quand est-ce que le Seigneur a décidé de, ça y est, maintenant j'ai besoin de toi là-haut, avec moi. Et même ceux qui diront, Seigneur, mais moi j'ai tout quitté pour te suivre. Mais c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que ça justifie un plus pour aller là-haut? Non. Tout ça pour dire qu'on ne travaille pas pour soi. On ne travaille pas pour... Dire Seigneur, et moi, ce que j'ai fait sur terre, ça t'a rapporté ça, Seigneur. Hein, enfin, bien plus, hein, parce que là, c'est pas grand-chose. Hein, je montre quelques billets, voilà, pour puisque c'est enregistré. Voilà, Seigneur, et puis d'autres vont dire, Seigneur, ben moi, je n'apporte rien. Seigneur dit, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ce qui compte. C'est que tu m'as donné ta vie, c'est que tu as cru en moi. Et puis si tu as eu le temps de partager ma parole, c'est bien. Cette parabole dépeint la grâce incommensurable de notre Seigneur, hein, cette compassion profonde, cette justice profonde, sa justice, qui n'est pas la nôtre. Mais cette histoire peut être vécue aussi comme un avertissement aux disciples de ne pas se laisser envahir par un sentiment de supériorité. Ah, mais à quoi ça vous fait penser? Allez, tiens, ça me traverse l'esprit, là. Les disciples qui marchaient, puis ils discutent entre eux, et ils se disent, « Hey, qui sera le plus grand ?» Voilà, hein, même les disciples entre eux. Qui sera le plus grand? Jésus dit, ben, peut-être que c'est un enfant qui sera le plus grand. Est-ce que c'est toi qui décides si, voilà, si tu seras le plus grand là-haut? Je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai pas les détails, hein. Le Seigneur m'a pas envoyé un DVD pour me dire comment ça se passera là-haut. Est-ce que je verrai des enfants passer devant moi? J'en sais rien. Peut-être. Aujourd'hui, en termes d'application de cette parabole, alors oui, juste avant, on peut penser aussi à, hein, tout ce que ces images que le Seigneur utilise aux semeurs. La parole est semée, la parole est semée comme une graine, mais elle va dans différents terrains, sur différents terrains, elle produit différentes choses. Une graine peut donner 40, 60% d'efficacité, une 20, une 1, une pas du tout, et une se perd. Alors les pièges à éviter, c'est que il y a certaines églises qui ont une, voilà, des églises très nombreuses, on a l'impression que c'est des bulldozers, des chars d'assaut, des, en avant. Bah, les petites églises, qu'est-ce que vous faites? On peut avoir ce sentiment, attention. Le Seigneur, c'est pas ce qu'il regarde. Le Seigneur, c'est pas le nombre. C'est pas la petite église du boulevard Vincent Auriol. Je dis petite église, en soi, c'est pas péjoratif, hein, frères et sœurs. Ne le prenez pas mal, hein. Au contraire. Est-ce qu'elle a moins de valeur qu'une église de 4000 membres aux États-Unis? Est-ce qu'elle a moins de valeur? Non, elle a tout autant, si ce n'est plus de valeur. Parce que là, vous ne pouvez pas vous cacher derrière les autres, en tout cas. Souvenez-vous de ce qu'on s'est dit, l'engagement de chacun. Dans une grande église, on peut se cacher. Mais moins on est nombreux, moins on peut se cacher. Et plus on peut voir l'œuvre de Dieu grandir. Ah. Et puis peut-être parfois que dans certaines églises, des anciens chrétiens voient d'un mauvais œil les nouveaux chrétiens. Les nouveaux arrivants. Tiens, est-ce que il est réellement vraiment converti? Tiens, est-ce que réellement vraiment on peut lui faire confiance? Tiens, est-ce que réellement vraiment on peut lui confier certaines choses? Et toi, quand tu as commencé, souviens-toi. Hein, le chrétien qui se dit, mais est-ce que ta foi, elle est vraiment bien. Bah, et la tienne, comment elle est? Tu oublies juste que tu peux te parler à un miroir, tu te parles à un miroir, mais est-ce que tu parles comme ça à ton Dieu? Non, c'est, tiens, Seigneur, au fait, est-ce que le frère ou la sœur untel, t'es sûr que... Ah, mais tout ça, c'est dedans, tout ça, c'est dans cette parabole. Hein, cette attitude, ce positionnement, cette jalousie. Hein, on parle de jalousie dans ce texte-là. Cette injustice. Ah, mais c'est pas normal. Moi, je suis chrétien depuis de longues dates. Je devrais plus être malade. Je devrais plus avoir de problèmes, de difficultés. C'est bon maintenant, Seigneur. Hey, ça fait 20 ans que je suis chrétien. Je ne dois plus avoir de difficultés. S'il te plaît, tu peux la donner aux autres. On partage. Ça peut paraître, peut-être sourire, je vous vois sourire, certains, mais c'est tellement vrai. Et puis il y a des chrétiens aussi super engagés, les locomotives, qui se disent « Non mais regarde, celui-là, il fait rien du tout. » Et là, oisif, là, tiens. Et là, il se planque dans le village, il est caché derrière la fontaine, après il se plaint que personne ne s'occupe de lui, hein, et à 5 heures de l'après-midi, il a toujours rien fait. Ben là, on est dans le jugement, on n'est pas dans la compréhension. Vous vous souvenez des trois attitudes, hein? L'indignation, semi-indigné, et la compassion et la compréhension. Pourquoi est-ce que mon frère ou ma sœur est oisif? Enfin, me semble oisif, attention, me semble. Ou est-ce que ça se trouve, il a passé 8 heures à prier pour l'Église? Et là, si tu le découvres, tu te prends une claque. Donc attention à notre façon de voir les autres. On pourrait dire, hey, « Eh, oh, mon frère, ma sœur, bouge-toi, oh, on a besoin de toi, là !» Oui, besoin de toi, à quoi faire? Besoin de toi selon ce que toi tu vois, mais peut-être pas selon le Seigneur ce qu'il a vu, lui ce qu'il attend. Moi je dis que nous sommes tous des ouvriers de la 11e heure. Nous sommes tous des ouvriers de la 11e heure, quel que soit notre âge. Nous avons rejoint l'Église selon notre âge. Nous sommes venus à Dieu sans attendre un salaire. Hein. Il n'y a aucune promesse de salaire. Venez. Les premiers, c'est t'auras un denier. Les deuxièmes, vous aurez un salaire équitable. Les derniers, c'est allez, je vous emmène. Ils y sont allés, sans réfléchir, en disant ouais, oh, on veut bien y aller, mais combien tu payes? Seigneur, est-ce que j'aurai une place à l'hôtel bien placé à Concorde? Voilà, avec une bonne pâtisserie en bas. Non, ils y sont allés. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas donné leur réclamation, leur revendication. Mais nous avons fait confiance à notre Seigneur. Nous sommes allés quand il nous a appelés. Regardez les disciples. Quand Jésus a dit, toi suis-moi, toi suis-moi, toi suis-moi. Se sont levés, ils sont allés. Les pêcheurs, ils ont laissé leur barque, ils sont partis. Matthieu, hop, est parti. Il y en a d'autres aussi quand même qui ont dit, ah mais laisse-nous, parce que là il faut qu'on aille quand même. Le Seigneur a dit non, c'est maintenant. C'est maintenant. On est à la 11e heure. C'est maintenant que tu dois venir, que tu dois me suivre. Maintenant, pas après. Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. Tous. Tous et toutes. Nous ne méritions rien. Je n'ai pas acheté ma conversion. Dans ce monde, tout s'achète, tout se mérite. Dans ce monde, la justice veut que chacun reçoive en proportion de ce qu'il a fait. Hein, donnant, donnant. Notre monde ne comprend pas. Ne comprend pas cette parabole au deuxième degré, pas au premier degré. Au premier degré, nous l'avons vu la semaine dernière, comment nous pouvons la comprendre. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons bien compris la signification de cette parabole? Elle ne parle pas d'argent, elle parle de grâce, elle parle de compassion, elle parle d'amour infini, elle parle de patience. Dieu est patient envers tous et toutes. Jésus, dans cette parabole, nous parle d'un autre monde, un monde où tout est grâce. Un monde où tu penses ne recevoir qu'une petite chose et Dieu te donne bien plus. Souvenez-vous, hein, cette parole. Qu'est-ce que tu veux? Que j'ai de la sagesse, Salomon. Et Dieu lui a donné par-dessus, bien au-delà de ce qu'il pensait. La sagesse, ça n'a pas de valeur. Je ne peux pas mettre un billet, une somme en face d'une sagesse. Mais regardez ce qu'a eu Salomon. Et puis cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Voilà. Le Seigneur appelle, j'y vais. Le Seigneur me bénit. Le Seigneur me remplit. Bien au-delà, si vous faites lire hein, cette parabole à n'importe qui, à la fin se dit, mais et les derniers, ils ont eu la chance. Ils ont gagné une journée de salaire en une heure. Ben voilà, voilà ce que notre Seigneur te propose. C'est d'avoir le maximum, même si tu ne penses pas l'avoir. Mais c'est parce que tu lui as fait confiance. Il t'a dit, viens, tu es allé. Viens, tu as cru, tu es allé. Et là, le Seigneur, tu peux lui demander, je vais le mettre en valeur pour donner du sens. Tu vas lui demander la valeur de 50 euros, le Seigneur va t'en donner 500. Et tu vas dire, waouh. Voilà la confiance que je peux avoir en mon Seigneur. C'est qu'il prend soin de tout, et en plus, c'est un Dieu généreux. Le maître de cette parabole est généreux. Les premiers ont eu leur salaire et les derniers, ils ont eu bien au-delà. Donc, c'est de la générosité. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous permette vraiment de comprendre quelle est la justice de Dieu ? Amen.